voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'annexion de la Crimée par la Russie, préfiguration de la guerre en Ukraine, ça fait 10 ans que les Ukrainiens de la mer Noire vivent sous occupation russe. Nous entendrons le témoignage de certains d'entre eux dès le début de ce journal.
Le Rassemblement National tenait hier ses états généraux de l'immigration en multipliant les références au RPR.
Et puis nous nous pencherons sur les difficultés de recrutement dans le secteur de la cybersécurité en France. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
Dans quel état sont les droits en France ? Leur défenseur Claire Hédon nous répondra.
C'était il y a 10 ans et cela a préfiguré la guerre actuelle en Ukraine. Le 18 mars 2014, Vladimir Poutine annexait la Crimée sans effusion de sang et signait un traité illégal d'annexion de cette région de la mer Noire. À l'époque, la réprobation de la communauté internationale était générale, mais les dirigeants occidentaux n'avaient rien tenté pour s'opposer à cette entorse patente au droit international. 10 ans plus tard, ils ont compris que cette annexion n'était qu'une première étape avant l'invasion russe de 2022. Quant aux pro-ukrainiens de Crimée, ils font le bilan de 10 ans d'occupation. Notre envoyé spécial en Ukraine, Camille Magnard, est allé à leur rencontre. Son reportage.
En 10 années d'occupation russe, c'est peu dire que la Crimée a changé, reconnaît Refat Choubarov. Il préside l'Assemblée représentative des Tatars de Crimée, première victime des répressions depuis 2014.
Les enfants là-bas ont vécu la plus grande partie de leur jeunesse sous la propagande russe. Et la Russie a aussi fait venir 1 million de ses citoyens en Crimée. Ce sera un gros problème pour nous de les chasser.
Dans le même temps, près d'un quart des Tatars de Crimée ont été contraints à l'exil ailleurs en Ukraine. Pour ceux qui sont restés, tatars ou ukrainiens ethniques, le danger est permanent. Volodymyr Pritula le sait bien, lui qui dirige depuis Kiev un média en ligne dont plusieurs journalistes en Crimée ont été arrêtés ou emprisonnés.
Il y a ceux qui ne veulent pas être mobilisés par les Russes, ceux qui redoutent la répression et les autres qui craignent les bombardements ukrainiens. Tous comprennent que la Crimée n'est plus le paradis qu'elle était jusqu'en 2014. Aujourd'hui, c'est avant tout un endroit dangereux.
Ces derniers jours, l'Ukraine multiplie ses frappes sur des positions russes en Crimée. La Russie réplique en lançant des missiles balistiques depuis la péninsule. Tamila Tacheva est la représentante spéciale de la présidence ukrainienne pour la Crimée.
Depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022 et surtout depuis que nos forces armées bombardent les positions russes en Crimée, notre peuple là-bas a commencé à résister activement. Et il y a beaucoup de gens qui aident notre armée en la renseignant sur des mouvements de troupes ou de matériel ennemi en Crimée. Ça aide beaucoup l'Ukraine.
2022 a été un tournant pour la Crimée et ses habitants. Un moment où l'Ukraine a compris qu'elle pouvait reprendre la péninsule. Qu'elle n'avait en fait pas d'autre choix. Et plus la guerre dure, et plus il semble clair que c'est bien là, en Crimée, que se jouera son dénouement.
Et c'est toute l'Europe désormais qui se mobilise pour soutenir Kiev contre la Russie, à l'image de la France, qui souhaite, selon les mots d'Emmanuel Macron, passer à une économie de guerre. Cela signifie essentiellement renforcer les capacités de production de l'industrie de défense française, une industrie qui doit produire en particulier et massivement des munitions. Or, ces munitions sont composées de poudre, dont la production a été délocalisée et qu'on trouve désormais en quantité limitée sur le marché français. Une usine de Dordogne, pourtant, s'apprête à doubler sa production. À Bergerac, Éric Biegala a visité la société Eurenco.
Le site de Bergerac est immense, autour de 150 hectares. À première vue, il ne paie pas de mine, vieux bâtiments industriels, cheminées Decati. Mais c'est là qu'on produit les composants de base des poudres, notamment la nitrocellulose. Sur cette ligne de production largement robotisée, on produit des charges modulaires de nitrocellulose pour les canons d'artillerie, comme le César. Une charge propulse un obus à 5 km, 6 charges, on peut en mettre 6 sur un César, propulse le même projectile à 40 km. Et là-dessus, l'entreprise a mis les bouchées doubles, résume son PDG Thierry Francou.
En fait, on va doubler encore notre niveau de production. Aujourd'hui, nous faisons 500 000 charges, 90 000 coups complets. C'est simple, 90 000 coups complets, nous allons doubler et nous allons encore aussi augmenter la performance de ces lignes. Globalement, nous allons monter à 1 200 000 charges, c'est-à-dire 200 000 coups complets sur cette usine de Bergerac.
200 000 coups de canon par an, à terme, dont 80% seront destinés à l'Ukraine. La performance industrielle ravit le délégué général à l'armement, Emmanuel Kiva, qui remarque que ces usines d'armement sont largement reproductibles.
C'est un modèle aussi pour d'autres pays, qui sont les clients d'ailleurs de Renko et qui veulent avoir les mêmes usines. là, on est vraiment sur des nouvelles technologies appliquées à de la production. Et le niveau de robotisation qu'on a ici est assez remarquable. Donc robotisation, optimisation des chaînes, optimisation des cadences, et donc bientôt une nouvelle usine qui nous permettra de doubler la production. Et c'est très rapide puisque effectivement ça avait été annoncé il y a un an, et là on se rend compte qu'elle sera opérationnelle l'an prochain.
Actuellement, la France ne peut livrer à l'Ukraine que 3000 obus par mois avec leur charge. Dans un an, ce sera au moins deux fois plus.
Six ouvriers qui effectuaient des travaux de rénovation sur le pont de Baltimore dans le Maryland sont toujours portés disparus et présumés morts, selon les autorités américaines. Le pont s'est effondré après avoir été percuté par un porte-conteneur dans la nuit de lundi à mardi. Il était aux normes, sans problème structurel connu.
7h05 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. En France, un séminaire aux allures de conseil des ministres ce matin.
Oui, séminaire gouvernemental consacré au travail. Avant ce soir, une interview de Gabriel Attal aux 20h qui devrait expliciter son idée de réforme de l'assurance chômage. Les dépenses sociales sont dans le viseur du gouvernement qui souhaite rétablir l'équilibre des finances publiques après le chiffre record du déficit publié hier. Pour le Premier ministre, cela passe par une réforme du marché du travail. Parmi les solutions envisagées et déjà plus ou moins dévoilées. De nouvelles restrictions, donc d'indemnisation du chômage, une désmicardisation ou encore la semaine de 4 jours. Autre priorité portée par le Rassemblement national qui prépare les élections européennes de juin, l'immigration. Le parti d'extrême droite tenait hier à la Maison de la Chimie à Paris des états généraux de l'immigration, un thème que Marine Le Pen et Jordan Bardella souhaitent mettre au cœur de la campagne. Avec un modèle qui ne date pas d'hier, la convention des oppositions à Villepinte en 1990, qui avait mis l'immigration en tête des problématiques de la droite. Le reportage d'Antoine Marette.
Soirée nostalgie au Rassemblement National. C'est le RPR qui est partenaire de l'événement, un micro-parti fondé par le député RN Franck Alizio. Une soirée qui a pour modèle la convention de la droite de 1990 à Villepinte. Franck Alizio cite Jacques Chirac, Philippe Séguin, Charles Pasqua et Valéry Giscard d'Estaing. Quand ces leaders de la droite et du centre s'étaient laissés aller à des propos très hostiles à l'immigration.
Ces déclarations donnent sa première raison d'être à notre présence ici ce soir. Comprendre pourquoi cette famille politique, revenue par 3 fois en 34 ans au pouvoir, n'a pas voulu, n'a pas osé ou parfois n'a pas pu appliquer ses propres résolutions.
Pendant 2 heures, des experts, plus ou moins experts, évoquent lors de tables rondes tout le mal qu'ils pensent de l'immigration. Le RN met en avant ses dernières prises de guerre, l'ancienne membre du Haut Conseil à l'intégration Malika Sorel, ou encore l'ex-directeur de Frontex, Fabrice Leggeri.
Il y a l'idéologie sans frontiériste, donc les no-borders ont pris le pouvoir, et vous avez un programme de peuplement de l'Europe quand on vous dit « nous sommes vieillissants ». Donc, nous avons besoin de ces gens-là, que ça vous plaise ou non, et on ne s'intéresse absolument pas à la légalité.
Pendant ces états généraux, le RN a multiplié les clins d'œil en direction des électeurs tentés par les listes LR et Reconquête, en appuyant sur un sujet qui fait consensus au sein de ces familles politiques, la lutte contre l'immigration.
Emmanuel Macron, lui, poursuit sa visite d'État au Brésil. Hier soir, le chef de l'État et son homologue, Lula, ont annoncé un programme visant à lever 1 milliard d'euros d'investissement pour l'Amazonie brésilienne et française côté Guyane d'ici 2030. Au menu des sujets de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la discrimination capillaire. C'est une proposition portée par le député du groupe Liot, Olivier Servat, qui souhaite ajouter ce type particulier de discrimination à la liste de celles passées. Cible de sanctions pénales, à l'image de ce qu'ont fait les États-Unis, par exemple. Écoutez Olivier Servat au micro de Rosalie Lafarge.
Nous considérons que c'est un sujet universel. Juste un chiffre, 6 personnes sur 10 dans le monde n'ont pas les cheveux lisses. Ça veut dire que ce n'est pas une problématique de noir ou de niche ou de que sais-je. C'est vraiment universel. Et quand on regarde de plus près cette affaire-là, on constate que, effectivement, c'est une problématique de santé publique, puisque les personnes qui utilisent des produits défrisants développe 3 fois plus de cancers, soit du col de l'utérus, soit des fibromes. On constate aussi qu'une étude montre aux États-Unis et en Grande-Bretagne, puisqu'il n'y a pas d'étude ethnique possible en France pour l'instant, que 2 femmes sur 3 noires, quand elles vont chercher du travail, doivent changer de coupe de cheveux. Et puis, on constate que ce n'est pas qu'une problématique de femmes noires, puisque 1 femme blonde sur 3 dit que pour progresser dans l'entreprise, elle doit se teindre en brune pour paraître apparemment plus intelligente aux yeux de l'employeur. Donc en clair, pour toutes ces questions-là, il y a déjà un texte de discrimination générale qui existe, mais on doit aller au-delà de la discrimination générale pour faire un focus sur la discrimination capillaire. Un article unique, simple. Il complète l'article L225 du Code pénal qui dit que personne ne doit être discriminé selon sa texture, sa couleur, sa longueur ou sa coupe de cheveux.
La discrimination capillaire, ce sera le thème du reportage de la rédaction de Célia Gauthier à 7h25. C'est un secteur qui embauche et pourtant, le numérique emploie 800 000 personnes en France et les besoins sont grands, en témoignent les récents piratages informatiques de France Travail, d'hôpitaux ou encore des espaces numériques de l'éducation nationale. La cybersécurité est un sujet majeur et sans doute un métier d'avenir, mais il est difficile de recruter. C'est ce que disent en tout cas les spécialistes du sujet réunis à Lille en ce moment pour la grande messe européenne de la cybersécurité. Les précisions de Gwendal Lavina.
Quand on évoque la cybersécurité, vient tout de suite l'image d'un bureau sombre et des lignes de code qui défilent sur les écrans. Un imaginaire réducteur et qui porte préjudice au domaine, estime Jérôme Billois, expert en cybersécurité au cabinet Wavestone.
Il y a des métiers effectivement très techniques qui sont parfois relayés visuellement dans les films, dans les séries, mais il y a aussi beaucoup de métiers qui visent finalement à comprendre comment une entreprise fonctionne, à identifier les bonnes solutions de sécurité, aussi à gérer des aspects économiques, des aspects organisationnels.
Les acteurs du domaine en ont bien conscience et ont tenté d'apporter des réponses, mais il faut désormais du temps pour obtenir des résultats.
Les investissements sont de plus en plus forts, l'intérêt pour ce sujet est de plus en plus présent, mais maintenant il y a toujours un peu de retard quelque part à l'allumage entre l'augmentation de l'intérêt et finalement l'arrivée de profils pertinents.
Une main-d'œuvre désespérément attendue dans les organisations de toute taille, car la menace a évolué. Vincent Strubel est directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Il y a encore quelques années, seuls ces grandes entreprises, les administrations sensibles étaient vraiment ciblées par des menaces cyber. Aujourd'hui, notamment du fait du crime organisé qui s'est emparé de ces sujets pour faire de l'argent, plus aucune structure n'est à l'abri d'une cyberattaque.
C'est pourquoi l'ANSSI appelle à mieux structurer la filière et surtout la rendre plus attractive auprès des plus jeunes. En France, on estime que 40 000 postes resteraient vacants dans la cybersécurité.
On part à Bologne, en Italie, pour terminer ce journal. Cette ville de 400 000 habitants est passée à 30 km/h. Comprenez, 90% des rues de Bologne sont limitées pour tout véhicule motorisé à 30 à l'heure. C'est la première grande ville à franchir le pas et cela fait débat à Bologne. Bruno Duvic.
Un grand boulevard près du centre de Bologne. Le taxi s'appelle Denis Lodi.
Oui, c'est une rue à 30. Même le dimanche matin, quand il n'y a personne dans les rues, tu dois rouler à 30.
Denis nous dépose devant le syndicat USB où attend Francesco Vito. À la pointe de la contestation, il y a les chauffeurs de ces bus bondés depuis janvier. La durée des trajets est rallongée.
En moyenne, c'est 4 à 5 minutes en plus. Donc au lieu d'avoir un bus toutes les 5 minutes, c'est toutes les 7, parce que le nombre de chauffeurs n'a pas changé.
Ils demandent plus de contrôle dans leurs couloirs, alors que les cyclistes augmentent de 10% par an, plus vite que les pistes cyclables. Quant aux amendes infligées aux automobilistes, leur nombre reste contenu, mais le pari de la sécurité est déjà gagné pour l'adjointe à la mobilité, Valentina Aurioli.
On est à 19% de blessés en moins et en moyenne les accidents sont moins graves.
Mais de l'avis même des partisans des 30 à l'heure, le grand saut aurait mérité plus de préparation. L'enjeu exige des investissements supplémentaires pour Paola Fagioli. Elle dirige l'association écologiste Lega Ambiente en Émilie-Romagne, très favorable à la mesure.
Elle change l'idée que l'on se fait de la ville et elle devrait pousser les gens à abandonner leur voiture. Nous espérons que la ville de Bologne va réussir à augmenter les moyens de transport en commun et d'autres services et tienne bon sur cette voie.
Car la bataille est maintenant nationale entre le ministre des Transports d'extrême droite et le maire de Bologne, à gauche. Au nom de l'unité du Code de la route en Italie, Matteo Salvini exige l'abandon des 30 à l'heure à Bologne.
Le temps de ce mercredi en France, agité à l'ouest, neigeux dans le Jura et sur Rhône-Alpes, soleil près de la Méditerranée. Les températures comptaient 10 à 14 degrés cet après-midi, entre 14 et 18 sur le midi. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture, Guillaume Erner.
Merci Anne-Laure Chouin avec la question du jour dans quelques secondes de Marguerite Caton. Dans quel état sont les droits en France? Leur défenseur Claire Hédon nous répond.